BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Jean-Éric Brana, merci d'être avec nous, maître de conférence à Paris 2. Puis vous avez publié un livre justement qui s'appelait « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». C'était avant la crise qui est en train d'embraser vraiment les États-Unis, après 9 jours après la mort à Minneapolis de George Floyd. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe, la réaction extrêmement brutale quand même de Donald Trump? Est-ce que ça peut changer un peu le cours des choses là aux États-Unis ou pas? Parce qu'il faut toujours se méfier. Chaque fois, on a l'impression que ça y est, le racisme n'existera plus jamais, que tout le monde se met la main sur le cœur et qu'on voit que les choses n'évoluent pas beaucoup aux États-Unis, mais pas seulement.
Mais vous avez bien raison de dire qu'il faut se méfier, puisque souvenons-nous, dans les années 60, c'était déjà la grande lutte, hein, la lutte pour les droits civiques et puis pour l'égalité, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le logement. Et effectivement, si en 64, la loi sur l'égalité civique a été votée, le Voting Rights Act, le reste n'a pas bougé. Le reste est resté comme il était déjà à cette époque-là, et effectivement, les populations les plus pauvres, les plus faibles, sont restées les populations les plus pauvres et les plus faibles. C'est ça aujourd'hui qui est dénoncé avec les problèmes de justice, les problèmes policiers, les problèmes de mise à l'écart sont quand même au centre de la préoccupation. Et est-ce que ça va changer dans cette campagne? Oui, ça va changer parce que ça met une nouvelle dynamique qui n'existait pas. C'était pas la question centrale. On voyait venir la question de la santé après la crise sanitaire. Bien évidemment, on se disait ça va être une question qui va prendre toute la campagne. Mais on se rend compte que même la santé est balayée maintenant par une question encore plus grande, c'est le vivre ensemble. La sortie de cette crise, comment elle doit se faire? Quel est le monde de demain? Et donc chacun doit proposer une solution. Donald Trump nous l'a proposé il y a quelques jours. C'est la loi, l'ordre, la religion et les armes. Et aujourd'hui, Joe Biden explique qu'il faut, puisqu'il est aujourd'hui le candidat, rappelons qu'il y a eu des élections cette nuit dans les primaires et qu'il a atteint le quota de délégués qui nous permet de dire aujourd'hui.
Vous avez raison de le souligner, absolument.
Tout qu'il à fait, est le candidat, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 2 jours. Mais désormais, il propose effectivement une société différente dans laquelle le racisme systémique, comme il l'a appelé, doit être éradiqué et donc reconstruire les liens dans la société.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un enjeu, ça va être l'enjeu presque plus que la gestion de la crise du coronavirus? Pourtant, je sais que ça a été assez dramatique aux États-Unis, mais est-ce que ça va être un enjeu de la campagne américaine, présidentielle américaine?
Alors, lié, tout est lié, puisque c'est vrai que si on veut changer la société, eh bien, il faut changer tous les pans de cette société qui ne vont pas bien. Donc, il y a les violences policières, certes, les problèmes de justice, certes, mais il y a surtout les problèmes de pauvreté, d'économie, d'accès au logement, d'accès à l'université. Vous voyez, ça ne se fait pas sur un seul pan. En 1968, la commission Kernel avait expliqué qu'il y aurait 2 sociétés qui allaient être l'une en face de l'autre, les noirs et les blancs, et elle disait à ce moment-là qu'il fallait créer immédiatement 2 millions d'emplois et créer 6 millions de logements sociaux.
En vous écoutant, pardon Jean-Henri Bernard, mais j'ai l'impression d'entendre la campagne de Barack Obama, voilà pourquoi il va incarner, voilà pourquoi il va changer les choses, le premier président black américain, en plus prix Nobel de la paix. En fait, rien n'a changé, parce que ce que vous dites là, c'est ce qu'on a entendu il y a 15 ans, en 2008.
Et voilà, vous avez complètement raison, c'est exactement la campagne de Barack Obama.
C'est
exactement la même proposition qui va être faite. C'était laquelle? Aller vers une société post-raciale. Et Barack Obama s'était retrouvé à l'arrivée à la Maison Blanche avec une crise financière sans précédent qui n'avait pas été prévue, puisqu'elle n'était pas là pendant la campagne. Elle est arrivée au moment même où il a été élu. Et donc, il s'est attelé à cette tâche, donc de remonter l'économie, en laissant de côté la réparation de la société. Et bien, Biden va avoir les deux en même temps, certainement. Il va avoir à la fois la réparation de la société et à la fois la crise économique, et en rajoutant la réforme de santé qui est également au programme.
Oui, sauf que là vous dites il va avoir à gérer, donc vous faites le pari que Trump va être battu, alors qu'on a l'impression qu'il était, c'était une voie royale devant lui pour les élections.
Vous avez tout à fait raison, j'aurais dû être un petit peu plus loin dans ce que vous disiez, j'ai laissé paraître un peu trop ce que je pensais.
Voilà, il ne faut pas, nous sommes...
vous avez complètement raison, mais en même temps, c'est vrai que si on regarde les choses objectivement, Donald Trump ne s'attendait pas à ce qui lui est tombé dessus, à savoir ce qui est tombé sur toute l'Amérique, mais lui sur sa campagne en particulier, puisqu'il partait, souvenons-en quand même, et on en avait parlé ici ensemble, il avait des chiffres extraordinaires, il avait un chômage qui était descendu à 3,3, 50 ans en arrière, il avait une croissance qui était très très forte, il avait une inflation qui était contenue, bon, tous les signes, il faut le dire, étaient au vert, et il se disait, je vais là-dessus.
Ah, il est à un boulevard.
Pourquoi je ne serais pas réélu? C'est vrai que la division dans la société, personne personne, à part moi, pensait que ça allait jouer. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, puisqu'il ne peut même pas jouer sur ces bons chiffres, même s'il n'est pas responsable de la crise du coronavirus, il faut quand même le rappeler, et que ses supporters ne le blâment pas pour cette crise, puisqu'ils savent bien qu'il n'est pas responsable.
Ouais. Et puis même, j'ai envie de dire, Joe Biden non plus, et que la dernière fois que vous êtes venu, ce n'était pas si évident que ça, qu'il serait le candidat investi quand même assez rapidement, hein, donc avant même cet été. Donc, est-ce qu'il y a aussi une chose, comment vous analysez sur le fond cet embrasement aux États-Unis, parce que le hashtag Black Lives Matter, on voit que c'est devenu mondial, hein, mais aux États-Unis c'est devenu culte. Est-ce que il y a toute la société qui suit derrière ou pas, ou c'est toujours une petite partie plus branchée, voilà, plus élite?
Non, on n'est pas dans la société branchée là, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous été en confinement et donc on s'est regardé un petit peu différemment. Et dans cette société en confinement, on a vu que les inégalités perduraient, puisqu'il y en a qui ont jailli, notamment les Afro-Américains. On a beaucoup parlé du tribut qu'ils ont payé à ce coronavirus. Et pourquoi? Parce que c'était les plus pauvres, les en moins bonne santé, parce que moins couverts. Et évidemment, tout cela est sorti très très fortement. Et c'est vrai que juste derrière, juste au moment où on va sortir, cette affaire de violence policière a été la goutte d'eau qui a fait tout déborder, où on s'est dit, mais enfin, c'est quand même injuste que ça tombe toujours sur la même société. C'est pour ça que les gens sont dans la rue. Mais tout le monde est dans la rue. Regardez les images. Ce sont des Noirs, ce sont des Blancs, ce sont des Asiatiques. En réalité, c'est tous ceux qui ont envie de changer la société. C'est même les plus jeunes. Les plus jeunes, génération Y, génération Z, donc les moins de 35 ans pour faire simple, qui ont envie d'une autre société qui ne soit pas démocrate ou républicaine, qui sera plus bienveillante. Ils sont même un peu conservateurs, ils veulent pas faire la révolution, hein. Mais ils veulent qu'il y ait plus de partage et qu'il y ait plus d'équité dans la société.
C'est ça, c'est tous les paradoxes. Alors on va pas commencer à les lister, mais il n'en demeure pas moins que vous avez un Donald Trump qui a 80 ans et un Joe Biden qui a 80 ans. J'arrondis.
74 et 78.
Non mais voilà, j'arrondis un peu exprès, je suis un peu provoque. Mais voilà, c'est du cheveu blanc, hein, donc c'est là où c'est un peu contradictoire.
C'est totalement contradictoire. Et c'est pour ça que Joe Biden, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, a tellement de mal à arriver à engranger tout l'électorat qu'il devrait avoir derrière lui, en particulier les plus jeunes, qui vont en traînant des pieds, il faut quand même le dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il y ait un vrai projet. Vous disiez tout à l'heure que j'étais en train de décrire le projet de Barack Obama. Mais en réalité, quand il a fait sa première déclaration, il y a un racisme systémique aux États-Unis, eh bien, il s'est condamné à proposer un plan à la société. Parce que s'il ne le fait pas, ces jeunes vont rester chez eux au moment du vote. Et ils vont avoir besoin d'une bonne raison pour sortir. La raison ne sera pas non plus si bonne que ça en réalité. Elle n'a pas besoin d'être très grande, mais ils ont besoin d'en avoir une. Mmh. Et donc Joe Biden doit leur proposer un plan aujourd'hui. S'il le fait, ils vont tous aller voter pour
Surtout
lui.
Surtout, c'est les Noirs qui ont soutenu Joe Biden.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est vraiment eux qui ont fait pencher le vote de son côté.
Hein. Bien sûr, mais c'est déjà eux qui n'avaient pas voté pour Donald Trump. Il n'a eu que 8% du vote afro-américain en 2016, à un moment où Hillary Clinton n'était pas très aimée dans la société. Avec Joe Biden, c'est encore plus amplifié. Ça, c'est pas à l'avantage de Donald Trump, même s'il a épinglé aujourd'hui sur son compte Twitter, le fait qu'il a tellement fait pour les Noirs américains, sous-entendu, le mot n'est pas marqué, mais aimez-moi, puisque c'est moi qui ai fait le plus pour vous. Mais la politique étant ainsi, c'est vrai qu'ils sont du côté de Joe Biden.
J'ai une question, parce que vous faites le lien, vous avez raison de le faire, entre le coronavirus et ce qui se passe là en ce moment, en disant que les gens ont aussi envie de sortir de chez eux. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de plan, parce que même la réforme de santé de Barack Obama, il n'en reste, c'est déjà mieux, mais il n'en reste plus grand-chose, est-ce qu'un jour, ça risque quand même de passer, d'avoir une forme de sécurité sociale, mais un peu plus que celle qui existe aujourd'hui aux États-Unis? Parce que pour nous, c'est vrai que ça paraît un peu étonnant quand même.
Alors d'abord, c'est un mythe. L'Obamacare existe toujours.
Il existe toujours, mais il a été réduit. C'est pour ça que j'ai...
Non, il a même été réactivé avec cette crise. Puisque au moment où la crise a commencé, il y a eu le plan CARES qui a été voté avec 2200 milliards de dollars qui ont été donnés. Mais l'Obamacare a été rouvert pour permettre à ceux qui perdaient leur assurance santé puisqu'ils étaient au chômage de pouvoir être protégés.
Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'Obamacare très ambitieux de Barack Obama, on en est loin aujourd'hui.
Ce qui a été supprimé, c'est l'obligation de s'assurer, contre lequel on avait une amende si on ne le faisait pas. Et c'était l'idée d'universalité qui faisait qu'il fallait qu'on ait une assurance quoi qu'il arrive. Si vous ne mettez plus d'amende, les gens ne s'assurent plus, il n'y a plus cette obligation. L'idée de Joe Biden, c'est de reprendre tout cela, sans mettre un démantèlement de l'assurance privée. Donc il essaie de faire un compromis. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, oui, il y aura plus, puisque Biden, si c'est lui qui est élu, s'est déjà engagé à étendre un autre système, qui n'est pas l'Obamacare, mais le Medicare, c'est-à-dire l'assurance pour les plus anciens. Actuellement, on y entre à 65 ans. Il a promis que ce serait à 60 ans. C'est Sanders qui lui a demandé, qui lui-même demandait à ce que ce soit mis à 55 ans. Encore une forme de compromis. Mais c'est déjà une forme d'extension. Avec le projet qui va être obligé de proposer maintenant, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin et que d'autres populations vont être protégées, par exemple les étudiants qui ont besoin également d'une protection spécifique.
Dernière question, Jean-Éric Brunard, mais à mon avis, vous allez me dire, je ne suis pas Madame Soleil, mais c'est un mouvement qui va durer ou c'était la sortie du déconfinement ?
Alors, je ne suis pas la même soleil, mais en réalité, tous les ingrédients sont là pour que ça dure. Mmh. En particulier parce qu'on va sur des élections et que cette population aujourd'hui a envie de pousser pour qu'il se passe quelque chose. Tant que les deux candidats ne seront pas engagés sur un plan, on risque d'avoir des manifestations sous cette forme ou sous d'autres qui vont se poursuivre. Et surtout, rappelons-nous en 68, puisqu'on avait déjà un système insurrectionnel, puis d'émeute, et qu'on avait une campagne électorale, eh bien, les manifestants avaient fait le siège des conventions pour essayer de pousser, en particulier sur la convention démocrate, puisque la convention républicaine en Floride, il se passait absolument rien. Mais c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui. Et Donald Trump doit s'attendre à avoir, je pense, des émeutiers à sa porte au moment de sa convention.
Oui, donc là, on va voir quand même que ça a un impact très fort sur la campagne présidentielle américaine. Merci beaucoup à Jean-Éric Dupeux. Et je rappelle que vous publiez « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». Et c'est aux éditions...
V.A.
Voilà, absolument, je suis juste sûr de la prononciation. Merci beaucoup. Dans un instant, on change complètement de registre. C'est aussi très impacté par la crise de coronavirus. C'est le patron de l'accord Arena, Nicolas Dupeux, qui est avec nous. Il a dû fermer l'ancien Palais Omnisports de Bercy. Quand est-ce que ça va réouvrir? Il vient nous raconter tout ça dans un instant. Merci Jean-Éric Brunard.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Nicolas Dupeux, directeur général de Accor Arena. Nicolas Dupeux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Si je dis Accor Arena, c'est que justement, maintenant, on ne dit plus Accor Hotel Arena, c'est retour en arrière. Maintenant, on a supprimé votre maison mère, mais Accor Hotel a supprimé le mot hôtel, donc maintenant, c'est Accor Arena.
Oui, c'est exactement ça. En fait, notre Neymar, partenaire principal, a changé de nom l'année dernière pour s'appeler Accor. Et donc, suite logique que nous aussi, on devienne l'Accor Arena. Mais c'est, pour nous, ce n'était pas juste un changement de nom. Ça a été aussi l'occasion d'affirmer ce qu'on appelle une nouvelle plateforme de marque, une nouvelle identité, un nouveau positionnement. En fait, l'Arena a 35 ans. Elle a été construite 36 ans même cette année, en 1984. Et on a souhaité se servir de ce changement de marque pour se projeter dans le futur, se réinventer. Et puis finalement, le contexte actuel nous apparaît aussi assez consistant de faire ça là, parce que c'est le moment de se réinventer, c'est le moment de repenser la manière d'accueillir les spectacles. Donc,
est-ce que ça change beaucoup pour les anciens comme moi? Avant, on connaissait le Palais Omnisports de Bercy. Il y a beaucoup qui continuent à l'appeler comme ça. Hein. Moi, je peux le dire, pas vous. Mais est-ce que ça change quelque chose d'avoir un Neymar, comme vous dites?
Oui, ça change beaucoup de choses. Il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, c'est un modèle où on était avant un lieu d'accueil. Et aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel on va bien sûr accueillir des événements, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour les entreprises. Donc, il y a une nécessité très forte qui a été de totalement rénover l'Arena en 2015. Il y a 140 millions d'euros qui ont été investis pour la remettre dans l'Arena l'une des plus modernes au monde. Et donc, on doit trouver des partenaires financiers pour porter ce modèle-là. D'où le naming, mais aussi ce naming.
Si je pose la question, c'est pas pour faire votre pub ou la pub d'accord. Ouais. C'est juste parce qu'on voit que c'est la grande question des stades de foot, par exemple. Bien comment sûr. Fait-on pour les financer?
Ça en fait partie. Les partenariats sont une verticale de financement très importante.
Bien sûr, pour vous, évidemment. Cela dit, on a envie de savoir combien ça a coûté de passer de Accor à Accor Hotel et ensuite de Accor Hotel à Accor, non? Parce que ça retourne en arrière.
Je n'ai pas les éléments précis sur combien ça a coûté, mais je pense que c'est aussi un investissement de communication, c'est un investissement de marque. Le groupe Accor a changé de marque avec toute une stratégie qui va derrière, qui est aussi celle de sortir de simplement sur la partie hôtelière pour devenir des lieux de vie. Ouais. Et finalement, nous aussi, ça nous inscrit dans un lieu de vie.
Ouais. Nicolas Dupeux, la question qu'on peut se poser, donc il y a 130 événements par an, il y a de 20 000 spectateurs, 42 millions de chiffre d'affaires en 2019, vous voyez, j'ai bien listé. Hein. Ma question, comment fait-on là, lorsqu'on est début juin, 3 juin, qu'on n'a pas eu un concert depuis 2 mois et demi?
Alors, nous, c'est vrai qu'on a été les premiers à être impactés. Ouais. La première annulation, on ne l'a pas eu avec le confinement, on l'a eu le 1er mars en fait, puisque le 1er mars a été annulé les événements de plus de 5000 personnes. Donc on a été les premiers, on sera effectivement un peu dans les derniers malheureusement à ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement...
Oui, 3 mois sans activité du tout. Et encore, comme vous dites, ce n'est pas fini.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme toutes les entreprises, on s'occupe de nos collaborateurs. Il faut préserver la santé des collaborateurs, il faut organiser le télétravail qui n'était pas notre culture. Ensuite, on travaille sur la programmation, vous le disiez, c'est une quarantaine d'événements qui sont impactés. Aujourd'hui.
Alice Aquel, Lille ou Alipa, enfin la liste est longue. Hein.
32 concerts, 8 événements sportifs, puisqu'on a une programmation assez mixte, avec aussi le report des Jeux Olympiques, puisqu'on avait des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques, qui du coup sont aussi décalés. L'atout qu'on a, c'est qu'on a réussi à reporter l'ensemble de nos concerts sur les mois et les saisons à venir. Donc on n'a pas d'annulation de concert, on a des reports. Vous imaginez le travail à refaire de Tetris dans la programmation.
Oui, on est vraiment dans Tetris, oui.
D'autant plus qu'aujourd'hui, on manque un peu de visibilité. Donc au début, on a reporté sur juin, et puis après sur septembre, et puis après sur octobre. Et là, nous, la question, ce qu'on demande, c'est de la visibilité. Parce qu'on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir. Mais aussi, organiser une tournée et un concert, c'est de la logistique. C'est-à-dire que des artistes, ça voyage, des productions, ça répète, etc. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain...
Tiens, toi, tu vas jouer le 27 octobre, ah, finalement, tu vas jouer...
Demain matin, on est ouvert, bon, tout va bien. Donc, il faut qu'on anticipe ça. Donc, voilà, nous, on travaille...
Vous avez une réponse du gouvernement de quand est-ce que les rassemblements de plus de 5000 personnes pourront être autorisés? Vous avez, peut-être pas une visibilité totale, mais enfin, une intuition.
Aujourd'hui, les événements de plus de 5000 personnes, ils sont interdits jusqu'au 31 août. Nous, notre position, c'est de dire, cette interdiction au 31 août, elle doit ensuite s'arrêter et on doit reprendre une activité normale à partir du 1er septembre. Bien entendu, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, parce qu'on reste des gens quand même responsables. Mais on demande à ce qu'on ait cette visibilité
D'accord,
de la rentrée.
Vous pariez sur le 1er septembre.
Oui.
Et vous aurez quoi comme premier spectacle ?
On aura, c'est ce qu'on est en train de regarder, on a aujourd'hui du sport qui pourrait venir sur début septembre. On va avoir ensuite l'événement de la BPI, qui est une génération,
Vic,
que vous connaissez très très bien. On va ensuite avoir le Rolex Paris Masters, qui est du tennis, le tournoi de tennis, qui va venir chez nous. Et puis ensuite, on a M. Pokora, on a Nino, qui sont encore aujourd'hui à la programmation, qui sont des grands artistes qui se produiraient chez nous.
Quand vous décalez un artiste qui doit venir, que ce soit M. Pokora, que ce soit Alice Aquel, comment faites-vous est-ce que tout de suite vous reprogrammez? Parce que chacun, eux aussi, ils ont leur tournée, ils ont leur programme, leur calendrier, qui a été partout bousculé. Mais comment ça se passe? Expliquez-nous, on aimerait un instant être dans les coulisses de ces grands shows auxquels on va.
Je parlais tout à l'heure un peu de Tetris, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a notre Tetris à notre programmation et il y a le Tetris de toutes les autres salles. Parce que qui dit tournée, dit en fait un plan de tournée. Donc on va, pour les tournées internationales, on va aller à Londres, on va aller à Berlin, on va venir à l'Accor Arena. Et donc en fait, c'est un travail qui est fait main dans la main avec les producteurs pour trouver le meilleur plan de tournée à l'échelle française, européenne, voire mondiale. Donc plus l'artiste est international, plus il y a de dates, plus c'est compliqué.
Ouais. Est-ce que vous payez un dédommagement?
Notre modèle économique, c'est de louer la salle à un producteur et ensuite de vendre de la billetterie. Donc, on ne paye pas de
Mais est-ce que le producteur vous paye la location de la salle? Est-ce que vous l'avez exigé ou pas?
On a des discussions, nous, on a
oui
souhaité...
Oui ou non, Nicolas Dupeux?
Je vais vous répondre très simplement. Nous, on est solidaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de report, on ne fait pas payer de frais d'annulation. On considère que cette crise, elle impacte tout le monde et que si on reporte le concert, il n'y a pas de frais d'annulation. Après, si c'est une annulation sèche, ou certains qui disent, tiens, on va profiter de ça pour faire finalement un concert qui marchait un peu moins bien et de l'annuler. Là, on rentre dans des discussions qui sont un peu différentes.
Qui sont un peu plus difficiles.
Oui, mais en ce qui nous concerne, ce que je disais, c'est que l'ensemble de nos concerts ayant été reportés, on n'a finalement pas eu avoir ce type de discussion.
Ouais, d'accord. Une annulation, on paye 100% une annulation ?
Non, ça dépend de la période d'annulation. Après, vous savez que quand les manifestations sont interdites par décret, on rentre dans un cas de force majeure. Et donc, qui dit cas de force majeure dit
assurance. Donc, vous êtes dans le cas de force majeure.
Dit surtout.
Pas de pandémie, pardon.
Alors déjà, nous n'avons pas d'assurance de perte d'exploitation. Donc, au moins, on n'est pas dans ce débat des assureurs, puisque nous ne sommes pas assurés sur les pertes d'exploitation. Donc, on perd l'ensemble du manque à gagner.
D'accord. Donc, ça, c'est un calcul économique que vous avez fait.
Oui, c'est surtout qu'aujourd'hui, les assureurs, pour assurer des pertes d'exploitation des lieux comme les nôtres de 140 événements, c'est des coûts qui sont faramineux et qui n'ont jamais été pris en compte. Je pense que personne n'a anticipé ça et personne ne s'était dit il y a 2 ans, j'allais payer X millions d'euros d'une assurance. Voilà.
42 millions d'euros de chiffre d'affaires, je le disais, en 2019. Mm-hmm. Là, sur le premier semestre, vous avez fait, c'est un manque à gagner de combien ?
Alors, nous, on est en exercice fiscal décalé. On clôture au 31 août. On avait fait une formidable année du 1er septembre au 28 février. On était très en avance. On allait faire une belle année et finalement, bon, on a eu l'avantage.
Vous n'êtes pas le seul. Enfin, je ne sais pas si elle peut vous consoler, mais vous n'êtes pas le seul.
Je sais que voilà, c'est qu'on n'est pas le seul. On est en train de faire nos atterrissages budgétaires, mais les conséquences sont très très importantes chez nous.
Ça vous coûte 30 millions, 40 millions, le premier semestre de votre année décalée.
Non, parce que nous, on a déjà passé quasiment 8 mois en fait où on était en activité normale, donc on a eu 2/3 de notre activité normale. Et après, il y a le tiers qui est impacté. Donc voilà, ça chiffre en plusieurs millions d'euros chez nous.
Oui. Donc ça, c'est.
Mais je dirais, au-delà de ça, la question, elle est sur cette année, mais elle est sur les suivantes aussi. C'est la reprise. On parle tous de reprise. Et nous, le point essentiel, c'est la confiance. Mmh. C'est comment on redonne confiance aux spectateurs pour qu'ils reviennent voir des concerts. Elle est là, la question cruciale. Ouais. Et aujourd'hui. Nous, on travaille là-dessus. On dit bien sûr, on va mettre en place les mesures sanitaires, mais aussi on a besoin d'un discours de confiance, en fait. Et donc, d'avoir, je parlais tout à l'heure de visibilité, mais de pouvoir dire, à partir de la rentrée, on va pouvoir réouvrir. Aujourd'hui, on déconfine un certain nombre de secteurs.
Oui, mais qui aurait envie, c'est vrai, vous avez raison, il y a un aspect, c'est la question que j'allais vous poser, il y a un aspect psychologique aussi. Est-ce qu'on va aller le 2 septembre, alors ça dépend de l'été, mais se serrer les uns contre les autres pour aller écouter même un concert formidable ?
Il y a plusieurs éléments de réponse dans tout ça. Le premier, c'est que les concerts, ça fait partie de la culture. Je crois que la culture,
c'est
un besoin.
Oui, c'est comme les bars et les hôtels et les restaurants, besoin. Absolument. Non, mais vous avez raison.
Moi, je me suis baladé dans Paris hier, midi, après la réouverture des cafés et restaurants. Vous sentez, en fait, cette âme, cet esprit, ce plaisir qui revient, la vie qui revient. Ça fait partie de la vie. La culture, ça en fait partie aussi. Les spectacles, ça en fait partie. Vivre des émotions autour de passion, c'est essentiel, en fait.
Oui. C'est du reste ce qui s'est passé, ce que disait Muriel Pénicaud ici même, qui disait il y a un petit clic aujourd'hui avec les cafés et les restaurants.
Il se passe un truc. Ouais. On a franchi une étape. Café et restaurant, on franchit une étape. Le train. Le fait qu'on annonce qu'il n'y ait plus de distanciation physique dans les trains.
Mais est-ce qu'il y en aura chez vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y en aura dans l'Accor Arena ?
Nous, on dit c'est simple, c'est pas possible.
Ah d'accord.
C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est économiquement pas viable. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique, c'est en dessous de remplissage de 70 à 80%. Ouais. Ça ne fonctionne pas économiquement.
Ouais.
Donc, un siège sur deux, ça peut pas marcher. Mmh. C'est à perte totale. Donc nous, on dit ça peut pas marcher. Je vous passe l'ambiance, l'exaltation que pouvait vivre une personne sur deux et le rapport avec les artistes. Ce qu'on préconise, c'est une ligne un peu différente. C'est de dire, en fait, il faut réouvrir, non pas sur 5000 personnes dans les zones vertes et rien dans les zones oranges, comme ça a été annoncé la semaine dernière. On dit plutôt réouvrons à jauge pleine, c'est-à-dire sur une capacité d'être à 100%, ouais. Mais sur des jauges plus petite et on remonte progressivement. Commençons à 500 personnes, puis à 1000, puis à 1500. Évoluons, expérimentons, testons apprenons. C'est ça, nous, notre préconisation.
Alors, il y a un petit clic aussi, petit déclic, je termine par là, parce que c'était un point important. C'est le 19 juin, oui. La fête de la musique. Alors, d'habitude, c'est le 21 juin, mais là, vous la fêtez le 19 juin. Il y aura un gros dispositif oui. retransmis sur France 2.
Oui.
Et ça va être le premier signe, quand même, non ?
Oui, nous, on est très fiers d'accueillir cet événement, parce que je parlais tout à l'heure de dire qu'on souhaite un acteur engagé de la reprise. C'est aussi ça, être un acteur engagé, c'est la capacité à mettre à disposition sa salle dans des conditions complexes pour accueillir l'événement qui célèbre la musique et qui, en plus, est en soutien aux salles et aux festivals. Donc oui, c'est une très grosse production. Il y a plus d'une trentaine d'artistes. Le dispositif technique est considérable. C'est 10 jours, 5 jours de montage, 3 jours... d'enregistrement et de direct, et 2 jours de démontage, parce qu'on doit respecter des mesures sanitaires importantes. Donc c'est un très gros événement, mais je pense, et vous le disiez, c'est un signe. Mmh. C'est le signe de la reprise, de la relance, et de fait de dire cette culture dont on a besoin, elle repart. Et nous, on est très contents que ça se passe chez nous.
Et bien voilà, il fallait terminer sur une touche positive, justement sur ce petit clic, déclic qui fait que ben voilà, ça sera parti. On vous souhaite en tous les cas au mois de septembre. On nous souhaite que ça soit tout soit rentré dans l'ordre. Merci beaucoup d'avoir été avec
Merci
nous,
beaucoup.
Nicolas Dupeux, donc directeur général d'Accor Arena. Merci.
Merci.
Beaucoup. Dans un instant, il se lance dans les trottinettes. Il était déjà, bien sûr, dans les bus, dans les blablacars. Il était aussi dans les blabla help. C'est Frédéric Mazzella qui est le président fondateur de Blablacar qui est notre invité. Et on parlera de France Digital. Là aussi, ils lancent un plan très important. Ils veulent un plan très important de 10 milliards d'euros, en tous les cas, pour booster ce digital qui a lui-même été boosté par le coronavirus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Dupeux. Et nous, on se retrouve tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il a eu lui aussi 0% d'activité, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Frédéric Mazzella, merci d'être avec nous, président fondateur de Blablacar. Quand je dis zéro activité, est-ce que vous êtes toujours à zéro activité sur Blablacar ?
Ah non, c'est déjà mieux.
Mais vous êtes à 1% d'activité.
Non, on n'était pas tout à fait à zéro, mais enfin tout est mieux que la période évidemment de confinement. Ouais. À partir du moment où tout le monde était chez soi, on n'avait plus beaucoup de déplacements. Donc c'est vrai qu'on voit que ouais. Là il y a un certain engouement. Surtout d'ailleurs sur le covoiturage, du fait que on voit vite que ça limite le nombre de contacts, et donc en fait le covoiturage a cet avantage-là.
Est-ce que vous avez fait avec votre communauté, vous avez une communauté de 18 millions de personnes en France, 90 millions au total, mais est-ce que vous avez passé des consignes, c'est-à-dire il faut que ça soit sur le passager soit à l'arrière,
est-ce que vous avez... Alors on permet au conducteur de publier effectivement une seule place s'il le souhaite. Voilà, après il y a les masques obligatoires comme partout, comme dans tous les transports. Voilà, et à part ça, bon, de toute manière, pour nous le grand, on va dire grand redémarrage, ça va être plutôt au niveau de l'été, puisque c'est le moment où les gens repartent véritablement se déplacer en vacances un peu loin.
Ouais.
Enfin, un peu loin, quelques centaines de kilomètres.
Oui, mais avec des mesures, des précautions sanitaires importantes quand même.
Voilà, mais les directives évoluent régulièrement, donc en fait, on va voir comment ça évolue sur les semaines qui viennent.
Alors, il y a Blablacar, il y avait Blabla Lines, on va en parler évidemment, il y a Blabla Bus, il y a Blabla Help, vous étiez venu nous en parler, c'était il y a quelques semaines, et là, vous vous lancez aussi dans la trottinette électrique Blabla Ride. Est-ce que c'est quoi votre objectif ? C'est d'utiliser votre communauté qui est quand même très importante et de lui proposer, ou c'est que vraiment vous devenez un acteur global du transport ?
C'est deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le côté, la poursuite d'une vraie stratégie globale et assez long terme qu'on a annoncé il y a assez longtemps de multimodalité, c'est-à-dire permettre plein de formes de mobilité. Mmh. On a fait le covoiturage, le bus. Là, maintenant, on fait de la micro-mobilité avec les trottinettes. Donc, c'est vraiment une stratégie d'acteurs de la modalité, enfin de la mobilité au sens large. Et à côté de ça, il y a aussi un modèle très innovant sur la manière avec laquelle justement on lance les trottinettes ici, puisque c'est un partenariat avec une société qui s'appelle Voy Technology, qui est très avancée dans le domaine des trottinettes électriques justement, qui est d'ailleurs le leader européen dans ce domaine. Et donc c'est une nouvelle forme pour nous de lancement d'activité, puisque d'habitude on le fait plutôt nous-mêmes, hein, que ce soit Blabla Lines ou que ce soit Blabla Car ou Blabla Bus, même ensuite avec le rachat de Webus. Là c'est avec un partenariat avec un acteur dont on estime qu'il est à la fois technologiquement très très bon, Voy Technology, et en même temps avec les mêmes valeurs que nous, hein, c'est-à-dire qu'ils affichent une véritable volonté d'avoir la durée maximale de vie, notamment des trottinettes, ce qui est souvent reproché aux trottinettes.
24 mois, je crois.
24 mois, voilà. Des opérations 100% neutres en carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des véhicules électriques en ville pour réalimenter les trottinettes, mais aussi compensation carbone de toutes les manières possibles. Donc, il y a une vraie volonté de cette jeune société Voy Technology d'être l'acteur de mobilité de demain, du futur, dont on a besoin, y compris en éco-responsabilité. Et donc, on a des valeurs qui se rapprochent. Et là, évidemment, on va pouvoir s'appuyer sur une communauté en France de 18 millions de personnes et peut-être ensuite à l'étranger. Alors on a déjà des Blabla Rides qui sont déployés dans quelques villes. Là, c'est vraiment, enfin, c'est maintenant quoi. Enfin,
c'était. Et c'est hier. Où, quand, notamment à Paris, mais aussi à Lyon et dans les grandes métropoles. C'est quand, c'est quoi?
Paris, il y a un appel d'offres. Donc là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y aura un résultat qui sera annoncé dans quelques semaines, puisqu'il y a trois acteurs qui vont être choisis a priori. Après, dans les autres villes.
Ça sera quoi après? Donc c'est après les municipales. C'est après les municipales. Ça voulait dire.
On n'a pas. J'ai pas la date exacte. Ouais. C'est donc. Enfin, dans quelques semaines. Mais par contre, sur les autres villes, il y a déjà des appels d'offres qui ont été faits ou des déploiements qui ont déjà été faits. Et donc là, on a les Blabla Rides qui commencent à être déployés.
Et vous en espérez quoi? Enfin, quoi, comment
Ben, en fait,
c'est quoi votre plan?
Ce qui manque dans le paysage un petit peu, si vous voulez. Quand vous
Parce
voulez...
qu'il y en a déjà beaucoup, hein, d'acteurs, justement.
Tout à fait. Mais l'avantage de Blablacar, c'est le même que celui qu'on a véritablement poussé quand on a lancé Blablabus. C'est le fait d'avoir déjà des gens intéressés par du déplacement. C'est pour ça qu'en faisant Blablacar plus Blablabus, on a un avantage, puisque on a les passagers qui veulent se déplacer, qui viennent chez nous. De la même manière, on veut être un acteur centralisateur au niveau des requêtes de déplacement. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous cherchez à acheter quelque chose, ben, vous avez quelques réflexes. Enfin, sur notamment une grosse place de marché que je ne vais pas citer, mais enfin, qui est quand même qui prend beaucoup de place au niveau mondial. Quand vous voulez rechercher quelque chose, eh ben, vous allez sur votre moteur de recherche favori. Quand vous voulez rechercher un déplacement, et je ne parle pas de la forme du déplacement lui-même, je parle juste du déplacement en général, vous n'avez pas aujourd'hui de véritable endroit concentrateur. On veut être évidemment cet endroit concentrateur. Donc ça passe par la construction des solutions de mobilité qui n'existent pas et qu'on n'a pas, et des partenariats, enfin là un partenariat en l'occurrence, pour aller s'étendre sur justement la micro-mobilité. On n'a pas envie de réinventer la roue, sans jeu de mots, mais on a envie d'aller s'appuyer sur une vraie communauté pour faire grandir cet usage-là.
Et est-ce que ça veut dire... Oui, c'est ça, en fait, c'est l'utilisation de votre plateforme. Votre plateforme, elle se veut maintenant multimodale.
Oui, même si aujourd'hui, il y a encore plusieurs applications.
Oui, mais j'imagine que vous allez quand même travailler, vous voyez, je vous devance, pour le fait d'avoir une seule plateforme.
Oui, bien sûr. Alors après, suivant les usages, c'est plus ou moins pertinent d'avoir une seule application. En tout cas, c'est regroupé sous une marque ombrelle, Blabla, évidemment, qui évoque tout de suite le déplacement.
Est-ce qu'on a un avantage lorsqu'on appartient, je sais pas, on utilise Blablacar, à utiliser Blablaride ou pas?
Alors aujourd'hui, on n'est pas encore sur ces offres-là. C'est possible qu'on ait ce genre d'offres.
Mais en même temps, je veux dire, ça n'a rien à voir avec, c'est pas du co-trottinette. Hein. Là, on n'est pas dans le co-voiturage.
Ah non.
Donc c'est vraiment, c'est presque un nouveau métier pour vous. En fait.
Complètement. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'associe avec un partenaire qui, dont c'est l'expertise. Après, on reste dans les véhicules partagés, si vous voulez. Notre principe à nous, c'est du véhicule partagé. C'est-à-dire que c'est pas de la trottinette que vous achetez et que vous utilisez pour vous tout seul. C'est vraiment de la trottinette en libre service, qui est partagée par tout le monde. Après, l'usage est partagé dans le temps, les utilisateurs les uns après les autres. Pas forcément exactement en même temps comme on le fait dans le covoiturage. Mais ça reste de la mobilité partagée. De la même manière que le bus est de la mobilité partagée. C'est notre marque de fabrique, si vous voulez. Et donc, la stratégie globale, c'est véritablement d'éviter que tout le monde presse sa voiture tout seul. C'est vraiment ça, notre stratégie.
Je reprends ma première question. Donc, Blablacar, ça redémarre tout doucement. Blababus.
À Blablabus, on vient juste de rouvrir les réservations pour le 24 juin. Donc là encore, c'est un peu tôt pour communiquer. Sur le covoiturage, ce que je peux
vous dire...
Mais
j'imagine qu'ils sont... Non, c'est déjà plein, non, pour le 24 juin ou pas encore?
Non, c'est pas encore plein, mais enfin, déjà, ce qu'on a, nous, choisi, parce qu'aujourd'hui, les directives évoluent quand même jour en jour. Alors là, ça a été ouvert, hein, puisque maintenant, il n'y a plus de limitation sur la réservation du nombre de places, que ce soit en bus ou en train. Cela dit, nous, par mesure de précaution, initialement, on a ouvert et commercialisé uniquement une place sur deux dans nos bus. Ça va pouvoir évoluer, on va voir justement en fonction du remplissage qui va évoluer sur les jours qui viennent. Enfin, c'est ouvert depuis hier. Ce qu'on a voulu faire, c'est rouvrir les Blablabus pour justement favoriser la possibilité de partir en vacances aussi en Blablabus. Et donc voilà, on a rouvert avant l'été. C'est pas forcément toujours facile de rouvrir les lignes comme ça du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises sur les 3-4 dernières semaines et nous, on doit s'adapter. Gérer un réseau de bus, c'est un petit peu plus complexe et moins réactif qu'un réseau de covoiturage. Un réseau de covoiturage, ça redémarre tout de suite à partir du moment où vous avez des particuliers qui viennent proposer leur place.
Est-ce que là, y a des mesures de sécurité, c'est-à-dire que vous demandez les gens à la limite en prenant la température, comme ici lorsque vous arrivez dans les studios de BFM, on vous prend votre température. Avant de monter dans le bus, on prendra votre température.
Alors d'ici 24 jours, on a encore le temps de s'adapter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du gel hydroalcoolique et puis des masques. Voilà. Et aujourd'hui, on commercialise un siège sur deux.
Ouais, d'accord. Et donc, pas pour l'instant, pas de prise de température.
Non, mais enfin, c'est encore une fois, beaucoup, en trois semaines,
l'épidémie.
Il tente de se passer beaucoup de choses.
Ouais. Est-ce que comment vous avez fait que du télétravail? Vous avez mis au chômage partiel toute l'équipe de Blabla?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que sur toute la partie technologique, donc technologie pure et puis équipe produit, on a gardé 100% des personnes mobilisées, puisqu'on continue à faire avancer notre produit, à le faire évoluer, puisqu'on veut avoir la meilleure technologie sur notre cœur de métier, qui est covoiturage, bus. Principalement. Et au-delà de ça, en revanche, il y a certaines autres équipes, oui, qui ont été de facto au chômage partiel, notamment toutes les équipes qui s'occupent, on va dire, du trafic de manière générale. Quand vous n'avez plus de trafic, bon, il n'y a plus grand-chose à s'occuper, du marketing et du service client. Quand vous n'avez plus de clients qui utilisent votre plateforme, vous n'avez plus forcément besoin du service client immédiatement. Donc, c'est une partie des effectifs qui a été mise au chômage partiel. Mais une grosse partie de nos effectifs est restée mobilisée pour faire évoluer la plateforme technologique.
Et est-ce que maintenant, est-ce que vous-même, vous êtes revenu...
On était en télétravail.
En télétravail, mais est-ce que maintenant, vous êtes revenu au siège de Blablacar?
Pas encore.
Non. Quand?
C'est encore en discussion. On va voir en fonction de l'évolution. Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu quand même dans l'expectative de savoir ce qui se passe dans les quelques semaines qui viennent. Voilà.
Oui, donc vous n'êtes pas sensible au message du gouvernement qu'il faut que l'activité reprenne?
Ah si, on est très sensible, mais nous, elle est... Enfin, c'est-à-dire... Au niveau du covoiturage et du bus et même des trottinettes, elle reprend. Après, au niveau de nous, de la manière avec laquelle on est organisé, on est une société digitale. Donc, si vous voulez, nous, le télétravail, on en faisait déjà avant. On en a fait, évidemment, pour le coup, 100% pendant la crise. On est très agile en mode télétravail. On sait se synchroniser à distance. Et en plus, vous savez, Blablacar, c'est une société qui est présente dans 22 pays. Donc, on a l'habitude de synchroniser non seulement les équipes au sein d'un même pays, mais aussi au sein de tous les pays différents. Donc,
C'était ma question parce que, en fait, derrière ce que je voulais dire, c'est que le télétravail, bah, vous connaissez, vous vivez dans un écosystème totalement digital. Est-ce que vous allez rester, demander à vos équipes de rester en télétravail? Est-ce que, je ne sais pas, vous allez réduire la voilure, question bureau, vous-même, vous allez rester chez vous ou pas? Quelles conséquences? Et puis surtout, comment ça se passe dans les autres pays? C'est intéressant de voir si la reprise d'activité est un peu plus forte ou pas, puisque vous êtes...
Bah, clairement, dans les pays qui sont déconfinés depuis plusieurs semaines, on voit une reprise d'activité bien plus forte que le déconfinement en France qui date d'hier. Après, sur la manière avec laquelle on va s'organiser en version locaux et télétravail dans le futur, ça, c'est effectivement des sujets qui sont discutés. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui parce que ça dépend véritablement de la manière avec laquelle ça va évoluer.
Enfin, si vous le bossez, ça dépend de l'intention avec votre associé, bien sûr. Mais
oui, avec Nicolas, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui va évoluer fort probablement, mais j'ai envie de dire pas seulement chez Blablacar, la manière de travailler, l'équilibre entre les coûts des loyers et l'avantage du télétravail, les désavantages du télétravail également. Ce qu'il faut pour qu'une équipe marche, c'est aussi que les gens se connaissent très bien. Et c'est vrai que être dans les mêmes bureaux et se voir au moins quelques fois par semaine, c'est très très bon pour la cohésion d'équipe et pour l'efficacité de l'équipe dans son ensemble. Donc ça, on y croit beaucoup, on l'a toujours fait. On verra comment on le fait dans le monde d'après.
Ouais. Justement, ça fera lien parce que vous êtes co-président de France Digital, vous êtes une des figures de l'économie numérique française. Vous avez publié des propositions, 15 propositions, oui. 4 axes stratégiques pour développer, booster l'économie numérique en disant que nous sommes entrés dans une crise, et je vous cite, nous sommes entrés dans une crise économique d'une ampleur historique. Est-ce qu'on n'est pas aussi... la France vient de vivre le plus grand moment de transformation numérique de son histoire.
Ah ben c'est sûr.
Oui.
Bah, le télétravail...
Oui, non, mais c'est intéressant.
La pratique du télétravail...
Donc vous dites il faut y aller complètement.
Oui, la pratique du télétravail a été multipliée par 10 pendant cette crise. Fois 10, mais évidemment, jamais eu ça dans l'histoire. Après, on a eu d'autres augmentations, alors plus ou moins tristes, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi les cyberattaques qui ont été multipliées par 4.
Oui,
voilà, donc il y a différentes choses. Le commerce en ligne qui a été multiplié par 2, donc voilà, c'était déjà bien parti, mais ça a augmenté. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment, les gagnants de cet épisode-là sont aussi des acteurs digitaux qui sont très souvent américains. Donc là, en fait, si vous voulez, cette période-là, qui a mis un accent et un coup de projecteur sur le digital de manière inédite, eh bien, a aussi mis un coup d'accélérateur sur les géants du digital américain. Donc, ce que l'on constate, enfin, c'est pas un scoop, on le savait déjà, c'est qu'on a un certain retard en France, oui, qu'il faut le rattraper. Et donc, ce qu'on fait avec France Digital, c'est qu'on veut proposer des mesures pour aller de l'avant et véritablement réinvestir sur la suite. Ça veut dire quoi, réinvestir sur la suite? Ça veut dire à la fois un programme d'investissement public et un programme d'investissement privé. On a suggéré 10 milliards d'investissements publics et 10 milliards d'investissements privés, de manière à compenser à la fois ce qu'il faut pour équiper tout le pays en connexion au débit, en matériel informatique dans tous les foyers, en collectivités locales 100% digitalisées et les entreprises 100% digitalisées, et aussi flécher une partie de l'argent de ces collectivités locales vers nos start-up, parce qu'on en a besoin, elles en ont besoin pour redémarrer, et de l'autre côté investissement privé pour véritablement faire rentrer de l'argent dans les sociétés pour les aider à grandir, que ce soit en phase d'amorçage avec des propositions, c'est un peu technique, mais enfin sur l'IRPME notamment, où eh bien il faut que les particuliers puissent facilement aller contribuer au démarrage des nouvelles sociétés en ayant des avantages fiscaux pour faire de cette manière, et ensuite sur l'investissement plus long terme, plus ce qu'on appelle late stage aussi, des plus gros montants par des investisseurs professionnels, de manière à tirer tout l'écosystème vers le haut. C'est pas un investissement risqué. Ce qui est très important à comprendre, c'est que nous, ce qu'on demande là, quelque part, c'est un rattrapage par rapport aux 20 dernières années où on a sous-investi dans la tech. Ça, c'est pas un scoop, mais là, ça l'a mis vraiment en évidence. Aujourd'hui, avec la crise qu'on a vécue, on a vraiment vu que on avait quelques outils français, mais enfin, la plupart, oui, et ceux qui marchaient le mieux, étaient quand même très souvent américains. Donc, et en même temps, oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le tiers des emplois créés aux États-Unis, net, des créations nettes d'emplois, sont liées au digital directement ou indirectement. Ce n'est pas un pari risqué, c'est un pari de l'emploi du futur. 94% des emplois créés dans les start-up sont des CDI. C'est des emplois qui sont peu délocalisables, et surtout, c'est une grosse valeur ajoutée pour le pays, pour la suite, et de rayonnement à la fois d'importance économique, mais aussi d'importance de souveraineté. Alors ça, c'est un autre sujet, mais...
On ira, mais plutôt encore dans quelques minutes. Hier, je recevais Pascal Cagny, qui est le patron notamment de Business France, qui s'occupe des investisseurs, des investissements internationaux ici, et puis qui a été 20 ans chez Apple. Il lance un fonds de 80 millions d'euros, et notamment, il disait, en fait, c'est trop tard, on va pas rattraper les Google, les machins, etc. Mais en revanche, sur tout ce qui est plateforme, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, Frédéric Mazzella, sur tout ce qui est plateforme, là on peut être bon. Et c'est là où ça se joue un peu l'économie numérique de demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Les plateformes, c'est très intéressant parce que, mine de rien, c'est pas des investissements colossaux.
Ouais. Et on peut refaire notre retard.
Oui, alors ça n'empêche qu'il faut quand même beaucoup travailler et beaucoup investir. Mais disons que les plateformes, ça a un avantage phénoménal, c'est que ça utilise des réseaux déjà en place. Et donc quand on arrive à faire un produit qui combine bien les atouts, notamment technologiques, mais aussi sociétaux du contexte, eh bien on arrive à s'étendre très rapidement. Donc ça veut dire que en investissant bien au bon endroit sur des bonnes plateformes, c'est des outils qui peuvent aller très très vite et rattraper un certain retard effectivement. C'est pas aussi structurant que par exemple d'aller équiper 100% du territoire en haut débit. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, et ça, c'est des investissements très lourds également. Mais c'est ce qui permet justement ensuite aux plateformes de pouvoir aller s'étendre très rapidement. Donc c'est vrai qu'on a une chance. On en a construit quelques-unes des plateformes Made in France, il n'y en a pas non plus 50, ouais. Hein, il y en a quelques-unes. Il y a des Doctolib, des Deezer, des Dailymotion, des Blablacar, il y a quelques boîtes comme ça qui ont réussi à construire des plateformes. Quand je parle plateforme, je veux dire aussi concepts et projets qui peuvent partir à l'international et vraiment s'étendre et tirer l'avantage d'être présent de manière globale. Hein. Donc, on commence à savoir faire. Maintenant, il faut quand même accélérer et il faut investir. Et encore une fois, ce n'est pas des énormes montants.
Demandez-vous, c'est 10 milliards.
C'est extrêmement important pour la suite.
Oui, 10 milliards d'investissements publics, mais où, quand, comment, en disant, mais il faut le doubler d'investissements privés.
Oui,
donc comment ça s'articule?
Parce qu'en late stage, quand je dis c'est pas beaucoup, alors évidemment 10 milliards c'est beaucoup, mais.
Aujourd'hui, on est dans les centaines de milliards, on sait plus où on en est, donc si vous voulez.
Voilà, mais donc du coup.
Ça reste raisonnable, 10 milliards.
Pour ce qu'on peut quand même qualifier de à la fois industrie du futur et industrie indispensable au futur pour justement faire en sorte que les sociétés fonctionnent de manière optimale, aller mettre 10 milliards sur le digital, c'est pas trop. Et d'ailleurs, dans le. Et en plus, dans les propositions qu'on fait, il y a également toute une section impact. Hein, non seulement c'est une proposition pour favoriser l'emploi et l'emploi durable. 94% encore une fois sont des CDI dans nos startups.
Oui, ça ne faut pas l'oublier. Ouais.
Et en même temps, on a des possibilités d'aller avoir de l'impact avec le digital. On fait aussi des propositions d'ordre fiscal où on dit, ce serait peut-être pas mal, par exemple, de baisser la TVA sur tous les objets recyclés. Pourquoi ? Parce que en fait, on sait que c'est mieux l'économie circulaire en fait pour ce qui nous attend dans le monde d'après avec le réchauffement climatique, avec les changements qu'on voit dont on voit aujourd'hui les effets. Enfin, c'est pas comme si il y a encore 10 ans, on disait ah oui, ça va peut-être arriver. Enfin, là, on le voit, c'est pas tant. Donc, il faut vraiment qu'on agisse là-dessus. Et le digital a des choses à apporter. L'État a des choses à apporter. Les investisseurs privés également. Je pense qu'il va y avoir un refléchage aussi parce que cette petite période nous a permis de prendre du recul sur tout simplement ce qu'est la vie. Et il va y avoir un refléchage vers des investissements qui font sens dans le durable et dans le digital pour le futur.
Le plan européen de 750 milliards d'euros, vous pouvez. Il y a une partie qui va être fléchée par la France. A priori, ça serait de l'ordre de 40 milliards. Donc écologique et numérique aussi, parce qu'il y a une grande ambition sur le numérique. Donc là, vos 10 milliards, ils peuvent venir de là.
Exactement. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on ne s'était pas trop trompé d'ordre de grandeur, puisqu'effectivement, dans le plan européen, on retrouve ce même ordre de grandeur. Nous, on dit 10 milliards privés, 10 milliards publics. Bon, ça fait 20 milliards. On parle de 40 milliards, enfin 25 ou 40 milliards suivant les interprétations, mais sur transition écologique et digitale. Donc du coup, on est effectivement dans cet ordre de grandeur-là. Et je pense que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on va prendre encore plus de retard et après, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer.
Est-ce que vous êtes pour et qu'on fait ? Parce que justement, c'est un peu tout le débat au niveau écologique. C'est-à-dire qu'on vous donne le prêt pour Air France, le prêt garanti par l'État pour Renault, mais on veut une transformation écologique derrière. Est-ce que vous dites pas, il faudrait aussi demander transition numérique ?
Exactement. Je pense que les contreparties sont très importantes. C'est-à-dire que a priori, quand on vient aider une société, c'est pour aider son futur, aider notre futur, aider la société, enfin faire en sorte que ça se passe bien dans le futur. Que ça se passe bien dans le futur, ça veut dire quoi ? Oui, c'est très important, et enfin, évidemment qu'on soutient ça, quand il y a un investissement qui est fait, enfin une aide financière très conséquente qui est faite à un Renault, on lui dise il va falloir faire plus de véhicules électriques. C'est évidemment très important. Il va falloir aller contrer Tesla. Il va falloir être très fort sur ce domaine-là dans le futur si on veut compter. Oui, c'est très important que quand on va voir Air France et que on les aide de 7 milliards, on leur dise, faites la meilleure transition écologique possible. Soyez l'acteur exemplaire dans le domaine d'éco-responsabilité. Oui, c'est très important. Et évidemment, on est 100% pour. Et on pense que toutes ces aides qui arrivent devraient également flécher l'argent vers le digital de manière à ce qu'on puisse compter parmi les nations qui fournissent du vrai digital, encore une fois, pour nos intérêts économiques et pour nos intérêts.
Oui, alors ce qui est, faut être, on va essayer d'être encore plus concret quand même sur ces 10 milliards. D'abord, vous dites qu'il faut les flécher. Qui le « on » c'est qui ?
C'est au moment où l'aide est attribuée. Enfin, il y a un moment.
Oui, mais justement, est-ce qu'il faut créer, comme il y a eu la BPI, le BPI de l'innovation. Vous voyez concrètement comment ça se traduit ?
Alors aujourd'hui, la BPI fait un travail excellent sur ce qui est justement déjà l'accompagnement de l'innovation et du fléchage quelque part de l'argent privé aussi, puisque grâce aux labels, aux différents labels qu'ils peuvent distribuer, ça va aider les investissements à aller dans la bonne direction. Ça peut être une piste effectivement que ça passe par la BPI pour justement instruire les dossiers d'investissement de manière à ce que l'argent soit donné en contrepartie d'efforts adaptés à l'entreprise à laquelle on s'adresse vers plus de digital. De toute manière, encore une fois, faire le pari du digital, ce n'est pas risqué, c'est juste obligatoire. Donc, c'est même plus un pari, c'est une obligation pour mieux fonctionner dans le monde de demain.
Oui, mais justement, c'est compliqué pour des chefs d'entreprise qui ne sont pas natifs comme vous. Et encore, vous n'êtes pas forcément natif.
C'est compliqué pour tout le monde. Après, c'est aussi amené par les usages et toute la nouvelle génération. Évidemment, on le voit bien. Toute la génération qui arrive dans le monde du travail, elle est digitale, elle est née dedans. Donc, pour eux, ce n'est plus une question, c'est juste une obligation. Donc, avec cette nouvelle génération, les choses vont également évoluer. Et donc, après, c'est le rôle justement de tous les chefs d'entreprise de faire évoluer leur structure pour justement être plus attractif vis-à-vis de la jeune génération et également être compatible avec le monde d'après. Et que le monde d'après soit digital et plus responsable, là, c'est plus une question, c'est une évidence. Et donc, du coup, c'est le rôle des chefs d'entreprise de s'adapter à ce monde de demain.
Oui, et tiens, une dernière question. Parce que le monde d'après, votre monde d'après, Frédéric Madelin, il est quand même, je sais que c'est la question que vous n'aimez pas, mais il est quand même très très peu féminin. On voit ce qui se passe, je dirais, j'essaierai de recevoir celles qui ont amorcé le rapprochement, le Sista, pour essayer de booster les femmes. Comment faire pour booster les femmes dans votre secteur?
Céline et Roxane.
Oui.
Oui, bah déjà nous chez Blablacar, on est plutôt déjà au-dessus de 40% d'effectifs féminins sur la société, et y compris avec un très fort taux de féminisation dans les couches les plus élevées de la société. Donc en fait nous,
dans on management,
est quand même dans le très bon sens. Alors que d'ailleurs, justement, faut quand même voir le terreau depuis lequel on part. Hein, c'est-à-dire que très souvent, les filières scientifiques sont pas celles qui amènent le plus de femmes malheureusement. Mais donc on va dans le bon sens. Évidemment, ces mouvements-là, Sista ou même Starter au UK, sont extrêmement positifs. Et on les soutient.
Merci beaucoup. On voit qu'en tous les cas, les 10 milliards, c'est pas absurde. Enfin, je veux dire, vraiment, il faut le faire. Hein. Au contraire, vous avez tout à fait raison. Et j'espère qu'en tous les cas, on va vous suivre de ce point de vue-là. Merci Frédéric Mazzella, qui va donc repartir, qui repartira bientôt en trottinette, puisqu'il lance Blabla Ride. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'orage. On se retrouve demain matin à 8h15. Bah, lui, il viendra en voiture, forcément en Renault, mais peut-être en Renault électrique, en Zoé. C'est Jean-Dominique Senard qui sera mon invité à 8h15. Et puis, on se retrouve bien sûr dans l'orage, 12h13. Bonne journée. We'll be right back.